Ce matin, on célébrait une messe avec le Monseigneur Jean-Pierre Ricard et on faisait une confirmation. On était cinq prêtres, c'était, je ne sais plus où, enfin c'était à Montpellier, mais. Et il y avait le Père Vincent Comte, que peut-être quelques-uns connaissent, il est très bien ce Père Vincent. Et il avait fait ses études à Fribourg. Alors il me dit, il y avait l'évêque qui était là, il me dit, ah, mais moi j'ai fait mes études à Fribourg, hein, j'ai fait mes études à Fribourg et tout pendant des années et tout. Hein. Ah, alors, il y avait l'évêque qui était là, il y avait deux ou trois autres prêtres qui étaient là. Ah, donc, vous savez la différence entre le tiesti et le pauvre, je lui ai dit. Il a dit, ah oui, ça c'est évident, c'est la base de tout. Alors, il y avait les autres pères qui étaient là. Qu'est-ce que c'est que le tiesti et le pauvre? Qu'est-ce que c'est que le tiesti et le pauvre? Le tiesti, quand vous voyez ceci est, vous vous posez la question. Bon, j'ai de la vie, j'ai des problèmes, j'ai un corps, j'ai une âme, j'ai la foi, j'ai des traditions, j'ai des problèmes, je suis fatigué, je suis en pleine forme. Bon, mais il y a toujours quelque chose qui demeure, c'est que j'existe. J'ai de la vie, je fais partie de la nature, je fais partie d'une famille, j'ai une aspiration à la transcendance, je suis un génie. La preuve, je suis un génie. Puisque je suis artiste, et donc je travaille, donc je suis un génie, j'ai une vie intérieure, je suis derviche, tourneur, etc. Mais il y a quelque chose qui demeure, j'existe. Ça échappe à toutes les formalisations. J'existe. Ceci est. Mais c'est quoi? Alors ceci, je vois ce que c'est. Il y a sept directions du ceci. Le point de vue de la nature, le point de vue de la vie intérieure, le point de vue de l'intelligence, le point de vue de l'affectivité, le point de vue de l'art. Le point de vue du travail, le point de vue de la vie communautaire, le point de vue de la transcendance. Mais dans le Est, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que c'est que ce Est? C'est Aristote, vous voyez? C'est Aristote. Averroès avait compris hein, que Aristote se pose la question Ti esti to'on? Qu'est-ce que c'est que le Est, l'être? Ti esti, qu'est-ce que c'est? Alors, il répond, bah, c'est l'aspect, c'est le substrat. C'est le substrat. Aristote avait dit, c'est le to-ti-en-ei-nine. Ouais, vraiment, c'est du chinois hein, pour nous. Alors, c'est le substrat. C'est le substrat. Et quand tu pisses dans une. Quand tu urines, pardon, dans une bouteille, hein, et que tu mets ça, tu donnes ça à l'infirmière, au bout d'un certain temps, il y a un dépôt qui se fait au fond, qui est solide. C'est ça. Alors, nous, on a plein de trucs, et si tu te reposes un peu, tu fais le jugement de l'existence, il y a un substrat qui est au fond, qui est solide. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui demeure. Toti enainain. Quelque chose qui demeure dans le fond de tout. Et c'est pour ça qu'Averroès, qui est bête comme ses pieds, le pauvre, c'est pas sa faute, il va dire, c'est la matière qui est l'être, l'être, c'est la matière. Mais Aristote ne veut pas du tout dire ça, il veut dire que l'est, qu'est-ce que c'est que l'être formellement? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce esti formellement? Qu'est-ce que c'est? Et il s'aperçoit que c'est la substance, l'ousia, et l'acte. Bon, mais ça, je ne reviens pas dessus. On l'a fait l'année dernière. Hein. Je ne veux pas revenir dessus. Mais maintenant, cet être qui subsiste, qui est si solide, qui vient directement du Créateur, actuellement, qui est la seule voie d'accès pour être en contact direct avec mon Créateur. Sans jugement d'existence, c'est impossible de faire un acte d'adoration. Si je ne rentre pas dans la compréhension intérieure du Est, je ne peux pas rentrer dans ce contact avec mon Créateur. Je ne peux pas rentrer en métaphysique. Il ne me reste plus que le métapsychique, c'est-à-dire la mystique de la vache et de l'hippopotame. Et donc, ou des parfums, ou des parfums des fleurs, ou des couleurs, ou des chromos, ou cryptosynthèse. Bon, vous avez tout compris. Bon, alors, il ne me reste plus que dire. Ben oui, mais qu'est-ce que j'en fais? Ben, d'accord, qu'est-ce que c'est que l'être? L'être, c'est ousia, substance, subsistance, individuation, c'est acte, c'est perfection de l'intérieur du point de vue de la subsistance. C'est source de bien, source de vérité absolue, source de vie, source de mouvement, source de devenir substantiel. C'est extraordinaire le point de vue du Est. Et tout ça, c'est un, dans le point de vue de l'être. L'un est l'acolyte de l'être. Mais comment le est va se réaliser dans le ceci qui est éclaté? Comment on va faire pratiquement? Comment le être qui devrait être un, qui devrait être perfection, bonté, surabondance, vérité, mouvement substantiel, etc. Comment se fait-il? Comment va-t-il se réaliser? Comment le est, le pose, comment va-t-il se réaliser dans le ceci? Et la mystique de l'un, elle s'arrête. Alors ça, c'est comment pratiquement? Eh bien, comment? C'est à partir du est, c'est retrouver à partir de la multiplicité dans laquelle le est, j'allais dire, s'est camouflé, retrouver dans l'origine les forces de réaliser cette unité, cette bonté, cette vérité de l'union totale avec l'être premier. Et donc, c'est le point de vue de la cause finale qui demeure dans le pose, la finalité. Comment on va faire pour que l'un, l'est, se réalise en unifiant tout ce qui est ceci, pour que le ceci est puisse s'épanouir dans l'amour, la vérité, l'éternité, le devenir substantiel, dans l'acte pur. De sorte qu'une mystique qui s'arrête à la forme va s'arrêter au point de vue du tiesti. La métaphysique de l'un, c'est de regarder le pos. Il y a une propriété de l'être, c'est l'un. Pourquoi et comment l'un va-t-il être un ressort pour se retrouver lui-même dans l'unité? Ce n'est pas sans l'amour, ce n'est pas sans la vérité, ce n'est pas sans la subsistance. Ce n'est pas non plus sans un devenir substantiel. Et par conséquent, ce n'est pas sans le point de vue spirituel. À raison de quoi on comprend tout de suite, quand on fait la métaphysique de l'être et la métaphysique de l'un, qu'une mystique qui s'arrête à la forme est un abandon pur et simple de la métaphysique de la fin, de la finalité. Et quand on n'a plus de finalité, on tombe entre les mains des psychanalystes. Parce que quelqu'un qui n'a plus de finalité, il est bon pour l'hôpital, la dépression, il n'a plus ses repères. Et un jour ou l'autre, il termine au Temesta ou je ne sais pas quoi, ou au Valium, ou je ne sais pas quoi. Et à tous les anti, je ne sais pas quoi, machin. Mais vous comprenez bien que ça, c'est quelque chose de très important. Quelle différence est-il entre le TST et le POS? C'est différent de savoir qu'est-ce que c'est que l'être et de savoir comment se réalise l'être pour que l'être puisse prendre toute sa place. C'est une question différente, voyez. Bon, eh ben, nous avons justement un professeur de philosophie. Non, mais viens, 30 secondes, viens. Voilà, on applaudit frénétiquement la foule. Voilà. Alors, bon... Non, c'est parce que je ne voudrais pas quand même que... qu'il pense que j'exagère.
Non, vous n'exagérez jamais.
Ah. Voilà, alors, est-ce que je pourrais te faire passer un petit examen de philosophie? Parce que les rôles sont inversés de temps en temps. S'il est professeur de philosophie, il enseigne la métaphysique. Bon.
Pas que la métaphysique.
Ah, il enseigne... Ah, bah si.
Oui,
un petit peu quand même.
Pas trop.
Bon, alors dis-moi. Pourquoi? Voici la question, à ton avis. Mais tu n'es pas obligé de répondre en 3 heures.
Ouais.
Pourquoi? Justement, c'est la réponse rapide et la réponse la plus philosophique qui soit.
Ouais.
Pas bon. Pourquoi est-ce que c'est si important de faire la distinction entre le TST et le POS en toute chose?
Parce que par le TST, on remonte en fait, c'est par le TST qu'on remonte, si vous voulez, à l'être dans ce qu'il est, dans ce qu'il y a de plus profond. Cette distinction permet d'aller à l'essentiel, en fait, dans la connaissance de l'homme.
Et donc ça va à l'essentiel.
Ouais. Le TST, c'est ce que c'est. Hein. Tout TST, ce que c'est. relève de la forme, en fait.
C'est le point de vue de la forme. Ouais. Le point de vue formel, c'est-à-dire de la poule de la compréhension.
Oui.
Très bien. Et le pos, alors,
le
c'est quoi?
Le pos, c'est l'aspect de la matière. Enfin, le père Philippe dit que ça renvoie justement à notre conditionnement matériel.
Ah, c'est le conditionnement matériel.
Enfin, je schématise, mais ça en gros, c'est ça.
Le conditionnement. Ah oui. Donc, c'est le point de vue, au fond, plus pratique. Ben, non, pas forcément.
C'est pas le plus, peut-être pas le plus, c'est peut-être le plus périphérique.
Ah, attention, c'est moins essentiel.
Voilà, tout à fait.
C'est plus périphérique.
Ouais. Donc, on remonte, le père Philippe remonte à la substance et à l'acte, c'est-à-dire au principe et cause de l'être, et on remonte par la forme.
Ah, par le point de vue formel,
voilà.
J'atteins les principes.
Voilà.
Les sources.
Voilà. La substance est...
Donc la véritable saisie,
oui,
d'une réalité. Et alors, et le pos, alors le pos, c'est quoi le pos?
Ça renvoie à la dimension matérielle de l'homme. Ça ne veut pas dire qu'il faut...
L'homme.
Oui, oui. La dimension matérielle de l'homme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas séparer les deux aspects, évidemment.
Ah, il ne faut pas séparer les deux aspects. Bon, oui.
Mais disons qu'il faut dire comment en philosophie on distingue, on ne sépare pas, on distingue. On essaie justement de faire une distinction.
Bon, pos, ça veut dire comment, hein,
matière, voilà, c'est le comment. Point de vue de la forme et de la matière, et puis en sachant que ces principes de l'être, on les atteint par la forme, mais en même temps, ils sont évidemment,
ils
produisent
présents.
l'unité de la nature humaine, tant au point de vue de la forme que de la matière. On est bien d'accord. Mais c'est du côté de la forme qu'on saisit ces principes, mais ces principes font l'unité à la fois de l'homme dans sa forme et dans sa dimension formelle.
Bon, est-ce que tu peux donner un exemple typique de gens, par exemple, qui se trompent parce qu'ils ne s'occupent que du TST? Ou d'autres qui sont très intéressants, mais qui ne s'occupent que du pos. Et du coup, qu'est-ce que nous, il faut qu'on fasse pour rejoindre à la fois, pour avoir une philosophie équilibrée, réaliste? Parce que le point de vue périphérique fait partie de la réalité, quand même, de l'homme.
Non, mais là, c'est facile, bon. Je schématise, mais ceux qui regardent le TST uniquement, c'est plutôt Platon. Hein.
Ah, Platon. La forme, Platon, oui.
La matière, ça serait Marx.
Ah, Marx.
Ou les épicuriens, ou les atomistes.
Les stoïcistes, oui. Enfin, oui.
Les stoïciens,
un peu moins, oui.
Voilà. Et donc, en fait, avec Aristote, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaie de penser l'unité de la forme et de la matière,
voilà.
Et de la penser dans une unité substantielle qui, donc, s'enracine, en fait, dans les principes et les causes de l'être, c'est-à-dire substance et acte. Penser, donc, une union substantielle de la forme et de la matière. Bon, schématiquement, c'est ça.
Alors donc, si vous regardez que l'aspect formel des choses, vous pouvez tomber dans le platonisme. Et donc, au niveau, par exemple, de l'affectivité, de l'amour, etc., ça donne quoi? Ça donne un amour
platonique.
Ah, bon.
Et voilà.
Bon. Alors, et qui ne se réalise pas dans le conditionnement concret. Voilà. Mais, pareil, si je regarde que l'aspect du conditionnement concret dans la vie affective, ça donne quoi comme philosophie? Un amour.
De liberté dans 4 ans,
un amour matérialisé.
Oui, matérialisé,
un amour limité au conditionnement périphérique, donc un amour libidinal, ça donne
oui,
Freud. Freud est dans le pos uniquement, il ne regarde pas du tout le TST, il regarde le pos. Autres exemples, d'ailleurs, dans l'ensemble, encore Hegel, prenons Hegel maintenant, une pensée comme Hegel. Hegel, c'est quelqu'un qui regarde uniquement la forme pour elle-même, Hegel. Et dit la forme la plus pure, la plus parfaite, la plus universelle, c'est le néant, c'est la négation. Parce que là, au moins, on est sûr de notre coup, et la négation est principe dynamique de toute forme. Hegel, c'est purement le TST. On regarde qu'est-ce que c'est que l'idée qu'on a, qu'est-ce que c'est que notre compréhension, qu'est-ce que c'est que l'esprit, qu'est-ce que c'est que... Hein, n'est-ce pas?
Ouais, on schématise, mais
enfin... Ah oui, non, mais il faut bien schématiser, je veux dire. Bon. Et alors, mais comment arriver... Alors, pour d'autres philosophies qui se résument... par exemple, Kant, avec ses transcendentaux, etc., les formes a priori de la pensée, tu...
Bah, ça serait plutôt par là, hein. Parce que chez Kant, il y a une dimension matérielle, c'est bien évident. Mais
ouais.
Au point de vue de la connaissance, chez Kant, il y a ce qu'on appelle des structures a priori de connaissance, des catégories, qui organisent en fait quelque chose qui est donné par la réalité extérieure matérielle et que nous organisons nous-mêmes. Mais il y a bien dans la connaissance, il y a bien une union de la matière et de la forme, c'est dans la connaissance, hein, pas dans la constitution même de l'homme. dans le fait qu'il connaît justement la réalité, mais ce qui est essentiel, évidemment, ce qui est premier, c'est encore la forme, du côté de la connaissance. Du côté de la structure de l'être humain lui-même, bon, ben, pour Kant, il y a une dimension matérielle, il y a une dimension formelle, on pourrait dire. C'est évident, toujours, lui, il tire beaucoup plus quand même du côté de la forme, c'est sûr. Mais bon, c'est pas Platon, hein, Kant.
Mais attends, moi je ne suis pas d'accord avec toi, parce que pour moi, Kant, c'est une philosophie de la connaissance. Donc la connaissance se réalise toujours dans un conditionnement. La connaissance n'atteint jamais les principes, ni l'être, ni les noumènes.
D'accord, ce côté-là.
Donc il n'y a pas de possibilité, c'est pour ça qu'il y a des formes a priori de la sensibilité.
Oui, mais enfin bon, je ne barrerai pas le
testime. Mais il voudrait regarder la connaissance, mais pour lui la connaissance est inadmissible, il n'y a pas de métaphysique.
Non, Kant, c'est un essentialiste en fait.
Ah, c'est un essentialiste. Donc vous avez tout compris. Attendez.
Quelqu'un qui reste au point de vue de la forme et qui ne remonte pas au principe.
Mais il n'arrive pas à remonter au principe. Voilà. Il voudrait être là, mais il n'arrive pas à remonter au principe. Donc finalement, il est noyé dans le point de vue de la connaissance elle-même. C'est pour ça qu'il critique, il critique, il critique, il critique.
Ouais.
Ah oui, mais alors qu'est-ce qu'il y a encore? Comme quand tu dirais, par exemple, comme haute philosophie, qu'est-ce qui vous intéresse comme méthode? Ni, hein?
Heidegger.
Ah, Heidegger, alors voilà, elle fait la... Eh oui, Heidegger se pose des... Qu'est-ce que c'est que le Est? Qu'est-ce que c'est que le Est? Surtout, ne restons pas au niveau du conditionnement. Qu'est-ce que c'est que le Est? Mais est-ce qu'il atteint les principes? Non. Il faudrait ranger toutes les philosophes, ou bien dans le TST, ou bien dans le Post. Et il y en a, seulement faut faire attention, parce que il y a les existentialistes, par exemple, Sartre. Ah, pardon, oui.
Justement, l'existence, c'est pas la matière, c'est pas la forme, c'est un combiné des deux, on pourrait dire. Donc, là, disons que l'existentialisme, on a difficulté à rentrer dans le schéma, parce que à la fois Sartre dit que l'homme, dans l'homme, l'existence possède l'essence, donc il y a un rejet justement de l'essentialisme, et en même temps, il y a quand même une exaltation de la liberté, même si cette liberté elle ne se réalise que dans un conditionnement bien précis.
Bon, est-ce que toutes ces philosophies dont on regarde, Platon, Hegel, Freud, Marx, Kierkegaard, etc., Heidegger et tout, Nietzsche, est-ce qu'ils font la distinction formelle entre le TST et le Post?
Non, pas dans ces termes-là.
Ah, aucun d'entre eux.
Pas dans ces termes-là.
Ils ne se disent pas, ah, il faut regarder le point de vue formel et le point de vue pratique. Et je distingue ce que je peux dire sur le point de vue de essentiel de la substance d'une réalité, en toute vérité, pour que je puisse le contempler. C'est une chose, mais la manière dont ça se réalise dans la réalité concrètement, c'est autre chose, n'est-ce pas?
Disons qu'en fait, en philosophie, c'est jamais quelqu'un qui va dire... C'est vrai que ça dépend. Marx est vraiment matérialiste, Freud aussi, d'une certaine façon. Hegel, c'est vraiment un idéaliste, mais c'est souvent une... Il y a toujours les deux aspects, souvent, qui interviennent, mais il y a certains philosophes qui pensent plus d'un côté que de l'autre, disons. Alors que je pense qu'Aristote, moi c'est ma pensée, mais...
Aristote, alors voilà, maintenant on arrive à Aristote, oui. Donc...
Aristote, c'est celui justement qui permet de penser, qui va peut-être le plus loin dans la possibilité de penser
domaines.
L'unité justement de l'être humain, à partir des fameux principes, les causes de l'être.
Oui, mais est-ce que la propre d'Aristote, est-ce que c'est pas le fait qu'il va jusqu'au bout du TST, il touche les principes,
oui,
du coup il est capable de regarder comment les principes se réalisent dans le point de vue concret, et du coup il peut faire une éthique, il peut faire aussi une philosophie de la nature, il peut faire aussi toute une logique pour une philosophie de la connaissance.
C'est ce qu'il recherche, c'est l'unité justement. Enfin, c'est vrai que c'est un point qui revient toujours. Hegel, c'est une philosophie de l'unité, mais dans un dynamisme. Platon, c'est une philosophie de l'unité, mais c'est un peu plus statique, je dirais. Bon, là, il faudrait voir, parce que c'est pas évident. Mais je pense qu'Aristote, lui, retrouve l'unité en partant justement des réalités singulières. Et je crois que c'est peut-être lui qui donne une clé, qui va plus loin dans la recherche et dans la découverte de l'unité de l'homme, quoi, de ce qui est de l'un dans l'homme.
Bon, par exemple, on pourrait faire aussi, vous voyez, ce que nous regardons depuis 2 ans. On regarde par exemple la question du Est. Ceci existe. Hein, le jugement d'existence. Si on était un petit peu trop... idée fixe sur le TST, qu'on ne regardait jamais le POS, eh bien, on regarderait le Est qui est dans le jugement d'existence, on essaierait de trouver l'acte pur dans l'adoration, par exemple, on arriverait à faire une théologie, une mystique naturelle, éventuellement, mais ce serait purement spirituel. On découvrirait le point de vue des principes dans l'ordre de l'être, l'ousia et l'énergeia, on trouverait, j'allais dire, dans le point de vue du Est, des tas de choses, et on abandonnerait tout le reste. On abandonnerait tout le reste. Si on faisait ça, qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait une...
Si on laissait
quand tomber complètement le poste, en faisant qu'une métaphysique de l'ousia et de l'acte.
Mais on ne rentre plus compte du conditionnement de l'homme, du fait qu'il est justement inscrit dans une dimension matérielle de l'homme, on ferait de l'homme l'ange, hein.
On ne prendrait que le point de vue spirituel et métaphysique de l'homme. On ne prendrait que le point de vue spirituel et métaphysique de l'homme. Et du coup, on ne verrait plus la différence qu'il y a entre le Est qui est en moi et le Est qui est par exemple dans le cosmos, qui lui ne se réalise pas de la même manière. Ou le Est qui se réalise par exemple en Dieu, qui ne se réalise pas de la même manière qu'en moi. Donc il faut que je regarde comment le Est va se réaliser. Et il se réalise dans l'homme sur le point de vue de l'unification de la personne dans l'amour et dans la vérité et dans le devenir substantiel de l'union avec l'acte pur. Vous voyez ? Et donc, je ne pourrais pas faire une philosophie de la personne si je ne regardais pas le point de vue du poste. Et si je regarde... Inversement, si je regarde que le point de vue de la personne humaine sans regarder le point de vue du Est en disant « je ne peux pas, je vois que j'existe, mais je ne peux pas savoir ce que ça veut dire ce Est », alors, qu'est-ce qui arrive? Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas saisir en moi le point de vue du Est, ni le point de vue de l'ousia, ni le point de vue de l'acte, ni le point de vue des principes, des sources internes du point de vue de l'être. Et alors, à ce moment-là, je dis, je bute ici, finalement, je fais comme Heidegger, je fais comme Kant, je bute ici, et il me reste quoi? Un relativisme, une critique, je ne sais pas trop où j'en suis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Et on rentre dans le risque d'une subjectivité transcendantale, et du coup, il n'y a plus de vérité qui transcende, qui est source de ce que je suis, et de mon unité personnelle. Et c'est pour ça qu'en philosophie, il faut savoir, je pense que tu es d'accord avec moi, tu enseignes la même chose, je pense.
Je ne crois pas tout ça, hein,
que la base de tout discernement philosophique, c'est de savoir, quand on parle d'une chose, pour dire la vérité tout entière sur une chose, il faut savoir distinguer ce que c'est que cette chose, par exemple un être humain du point de vue le plus formel qui soit, et le point de vue de son unité. Le point de vue de son unité concrète. Le point de vue, c'est ça qu'on va faire la philosophie de l'être humain et du est dans le ceci, dans le je suis humain. Et puis on va regarder la philosophie de la personne, la manière dont le est du je suis humain s'unifie dans l'amour, la vérité, et le devenir substantiel d'une unité avec l'acte pur. Vous voyez? Et donc tout ça, c'est pour ça que, vous voyez, quand vous entendrez... parce que quand même, si vous êtes venu ici pendant 10 ans, et qu'on vient vous dire « Ah, vous avez reçu des enseignements de philosophie tous les samedis, formidable !» Bon, alors, ah donc, la petite boutade que j'ai fait ce matin, hein, au Père Vincent. Je dis, alors, donc, maintenant, vous savez faire la différence entre le tiesti et le pose. Si vous dites, ah, oh ben oui, ça, c'est vraiment l'axe de tout, tu vois. C'est le principe de tout. Parce que notre philosophie, elle ne doit pas être complètement formelle. Sinon, vous poussez le formel jusqu'au bout, vous tombez dans quelque chose qui est trop mystique, qui est angélique, finalement, métaphysique pour lui-même, et vous tournez, et vous devenez soufi. Et puisque vous avez voulu rejeter la matière, elle revient au galop et vous utilisez la matière pour votre derfis tourneur métaphysique. Et c'est ça, la mystique, quelque part, soufie, si vous voulez, c'est une manière de l'exprimer, vous voyez. Mais tout se rejoint, vous savez. À partir du moment où vous voyez la différence qu'il y a, de sorte que, même pour le point de vue de la foi, regardez pour le point de vue de la foi, application pour le point de vue de la foi, ça c'est de la philosophie. Maintenant, théologie. Théologie. La foi nous est donnée. Hein? Bon, enfin, c'est bien, mais il s'est bien débrouillé. Je donne la moyenne. Ouais. Ouais, il s'est trompé sur Kant, mais bon. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, mais c'est vrai, il démarre seulement. Bon, j'ai... Non, c'est bien, c'est bien. Non, c'est bien, non, mais c'est important quand même. C'est important de repérer les axes. Vous voyez? Nous, jusqu'à maintenant, ce qu'on a essayé de faire, c'est un petit peu d'éthique, un petit peu de métaphysique, un petit peu de le samedi après-midi. Mais tu vois, ce qu'on ne fait pas ici, tu le sais, c'est qu'on ne fait pas de critique. On ne critique pas ce que nous avons regardé. Il faudrait, de temps en temps, qu'on puisse prendre du recul par rapport à tout ce que nous avons regardé, pour essayer de critiquer, pour voir, pour arriver à situer la manière, si notre manière de penser, elle est objective, si elle ne s'est pas enfermée dans un système. Voyez ? Et si, en critiquant, on peut essayer de voir si les modes de connaissance nous permettent de dire « Mais oui, là j'atteins quelque chose, un principe. »
Et dans le « et », vous voulez, je dis l'existence, justement. Et en fait, le ceci, il faut les poser par exemple comme ça, le ceci est à distinguer du poste, de la matière, mais le « et », d'une certaine manière, englobe à la fois le « et » du ceci, et englobe à la fois la forme et la matière. Hein, puisqu'on existe avec une forme et une matière. En fait, c'est comme ça. C'est vrai que la distinction, comme ça, c'est un peu artificiel.
Alors, c'est pour ça que, vous voyez, c'est une, la distinction que nous avons faite est une distinction critique. Et comme c'est une distinction critique, elle est binaire. Je veux dire TST, je veux dire POS. Et en réalité, vous le savez, ça c'est le théologien qui parle, d'une vision plus juste, elle est toujours trinitaire. Alors effectivement, vous avez le point de vue formel, ceci, par exemple un homme, formellement c'est un homme. Vous avez comment ça se réalise? Ça se réalise dans un corps, ça se réalise dans un environnement, ça se réalise dans une société, une communauté familiale, un corpus, etc. Et puis vous avez le est, vous voyez, qui se balade entre les deux et qui unifie parce que l'homme, vous voyez, l'homme dans son essence, dans sa nature, se rejoint le point de vue concret d'un individu particulier. Homme, c'est général, c'est formel, et puis c'est Pascal. Et ça, c'est très spécial.
Qu'on a reproché à Saint Thomas, ce qui est faux. En fait, ce qui fait la singularité de l'individu, c'est la remontée au principe. En fait, si je dis que c'est Pascal ou Paul, c'est parce que je saisis dans les principes.
Non, c'est parce que je saisis dans le est, voilà, est. Qu'il y a une source et un aspect essentiel de l'humanité en lui et à son individuation. Et cet aspect, j'allais dire, qui explique et le TST et le POS se trouve dans le principe.
C'est là qu'on saisit la singularité. Ce qui fait que Paul est Paul et pas Pierre.
Voilà. Donc il faut avoir une approche de toute réalité. Il ne faut pas avoir une approche avec des deux mains, il faut trois mains. Il faut regarder l'essence même des choses, qui est essentielle à toute chose, ce qui appartient à sa nature propre, ce qui appartient à sa caractéristique concrète. C'est pour ça que vous devez être tolérant, n'est-ce pas? Parce qu'il faut être... ce qui appartient à sa caractéristique concrète, et ce qui appartient à son origine, à ses principes, à sa source. Et à sa perfection, même si elle n'y est pas encore, ou si elle n'est pas visible, ou si elle n'est pas atteignable dans le point de vue strictement formel. D'où la nécessité toujours de revenir au Est, qui est source d'unité entre toutes les philosophies. Vous voyez ? Entre deux. Enfin, c'est par le point de vue de la propriété de l'être qui est l'un. Donc voilà. Donc tout ça pour vous rappeler. Rappelez-vous de cette expression qui doit devenir pour vous une expression classique. Il faut faire la différence entre le TST et le POS. Et pour toute chose, vous voyez, c'est quelque chose de très amusant de regarder ça. Bon, par exemple, nous avons le point de vue de Dieu. Dieu. Formellement, qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Est-ce que Dieu existe? Comment Dieu se réalise-t-il dans sa perfection éternelle et incréée? Voilà trois questions, vous voyez, qui sont des questions tout à fait différentes les unes des autres. Est-ce que Dieu existe? Il faut d'abord que je démontre l'existence de Dieu. Découvrant l'existence de Dieu, je vois que Dieu existe, qu'il est principe de lui-même, qu'il est toute perfection, il est acte pur, il est simplicité, perfection, perfection incréée de lui-même, et je m'aperçois que Dieu, c'est l'être premier. Sa nature, c'est que l'être, la vie, et l'acte sont une seule chose en lui. Et il se réalise dans les relations trinitaires.
Israël existe dans des relations subsistantes. Voilà donc trois grandes interrogations, et vous sentez bien que si votre intelligence n'est pas aiguisée suffisamment pour faire la différence entre cette direction, cette interrogation du TST, cette interrogation du POS, et cette interrogation de la source et du principe même du Est qui fait la nature de Dieu, votre théologie va tomber un petit peu, et vous allez tomber dans une hérésie à un moment ou à un autre. Si vous n'avez pas du tout le sens des relations, vous n'allez pas avoir le sens de la très sainte Trinité. Vous voyez, si vous ne sentez pas la très sainte Trinité, c'est peut-être examen de conscience philosophique, je ne parle pas en théologie, je parle en philosophie, c'est peut-être examen de conscience philosophique, je ne sens pas, je ne perçois pas la très sainte Trinité. Je ne perçois pas du tout. Dieu d'accord, qu'il y a quelque chose qui fait que tout existe, ça d'accord. Mais la très sainte Trinité, ces relations subsistantes d'un appauvrissement fondamental, absolu, substantiel, qui permet qu'il y ait une communion de personnes dans, et qu'il y ait des relations subsistantes en Dieu, ça je ne perçois pas. Unir à Dieu, d'accord, mais m'unir à Dieu, incréé, Dieu manifesté en lui-même, Dieu, unification absolue dans l'un et la communion des personnes, faire la distinction dans l'union avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, moi j'y arrive pas. Quand c'est Dieu qui lâche, je suis uni à Dieu, point à la ligne. Et je ne perçois pas la différence entre les relations d'origine qui font les personnes divines. Eh bien, examen de conscience, si effectivement on n'y arrive pas, est-ce que ce n'est pas parce que mon intelligence, déjà humainement parlant, ne se préoccupe pas de la dimension des personnes dans le monde concret? Voyez, on peut continuer ici notre petite réflexion, voyez, sur le soufisme. Pourquoi? Parce que dans le soufisme, qu'est-ce qui se passe? C'est l'aspect formel de Dieu. Dieu est divinité. Vous voyez, dans toutes les doctrines ésotériques, on regarde l'aspect, j'allais dire, nouménal, c'est-à-dire impalpable, incompréhensible, et pourtant dans lequel je vais me fondre comme une lumière dans une autre lumière pour saisir la nature du dépassement total de la transcendance de l'être premier, qui est une vie qui tourne dans la transcendance circulaire de l'éternité. C'est ça, c'est tous les mystiques New Age, vous voyez. Eh bien, j'essaye d'atteindre le point de vue de la divinité, le point de vue formel de Dieu. Une formalité, une forme divine, vivante, lumineuse, mais qui dépasse toute forme compréhensible. Et alors, je rentre dans le sophisme, je rentre dans une espèce d'islam, si vous voulez, mystique et vécu. Et si je rencontre un musulman, c'est pas parce que je suis pas du tout contre les musulmans. Moi, à chaque fois que je rencontre un musulman, faites comme moi, s'il vous plaît. Dites, mais moi je suis beaucoup plus musulman que toi. Infiniment plus musulman que toi. Je suis musulman multiplié par... Eh oui, parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le voir comme un musulman, voir, voyez, que Dieu est présent dans le concret. Que Dieu est présent dans la personne aussi. Il est présent dans la communion des personnes. Vous comprenez? Si je suscite l'amour chez quelqu'un qui est enfermé dans sa subjectivité mystique transcendantale d'Erwistuner, si je suscite l'amour, ça fait exploser le point de vue métapsychique de son imaginaire sur Dieu. Il a l'impression de trouver, de toucher, d'appréhender le divin formellement, parce que c'est ce qui transcende tout ce qu'il peut en percevoir et en comprendre. Mais si je suscite l'amour, je dis bien, je suscite un amour, vous voyez, alors à ce moment-là, il y a comme un contact, si je perçois la personne, vous voyez, il y a un contact qui se fait. Il y a un contact réaliste, un contact de personne à personne. Et cet amour, vous voyez, qui se réalise dans la communion des personnes, cet amour qui se réalise dans la vie contemplative, dans la rencontre concrète, dans le point de vue éthique, si vous préférez, et encore mieux dans le point de vue de la charité, de l'agapé, l'amour des ennemis, voyez, où vraiment cet amour, ce n'est pas vous qui essayez d'aimer à l'infini votre prochain, mais vous suscitez un amour, parce que quiconque a un cœur éveillé spirituellement et humainement, suscite l'amour, parce que le bien attire l'autre. Aimer, ce n'est pas se précipiter pour étouffer le type jusqu'à ce qu'il comprenne quand je l'aime. Une fois qu'il est bien étouffé en disant « Oui, d'accord, j'ai compris que tu m'aimes. » Hein? C'est pas ça. C'est le laisser. C'est pour ça que ces jeunes disent « Hey, laisse-moi les baskets. » Et ils ont raison. C'est pas ça, c'est susciter un amour. Le bien attire. L'amour, c'est que le bien s'impose à moi, il m'attire. Donc si mon cœur, j'allais dire, est réveillé dans l'amour, à ce moment-là, vous suscitez un amour. Et alors, c'est ça la vie philosophique, déjà pour commencer, la mystique réaliste, une mystique de la personne. Vous vivez du plus possible du bien, de la bonté, de l'attention, voyez, de manière à ce que se susciter un amour, le bien attire. Alors à ce moment-là, si c'est quelqu'un qui est enfermé dans une mystique transcendantale, dans ce truc métapsychique ou dans je ne sais pas quoi, si vous suscitez un amour, il y a un lien qui se fait. Et du coup, son intelligence perçoit peut-être quelque chose de spirituel du point de vue du cœur. Percevant quelque chose de spirituel du point de vue du cœur, il ne peut plus regarder Dieu de la même manière. Parce qu'une fois que dans mes relations concrètes de personnes, voyez, dans la communion des personnes, si je deviens contemplatif dans la communion des personnes, parce qu'il faut, bien sûr, je perçois en lui les principes mêmes de sa vivification intérieure, de son éternité, déjà présente à l'état de germe, ainsi que de son principe d'origine, l'un de l'innocence divine qui est en lui. Et à ce moment-là, il se reconnaît lui-même, il est attiré, parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un dans celui qui est proche de lui, qu'il l'aime plus que lui-même ne s'aime. Dieu, à ce moment-là, il reconnaît Dieu. Et il s'aperçoit que Dieu est dans la communion des personnes. Et il ne peut plus percevoir Dieu en dehors de quelque chose de réel, de concret. Il faut sortir du métapsychique imaginaire, voyez. Et alors à ce moment-là, vous avez rendu au derviche le plus grand service qui soit. Alors, c'est ce qu'on m'a dit à propos de ces réunions avec le père Delorme, c'est qu'il y en avait un qui disait « Oh, c'est formidable, regardez ce que dit Jésus, formellement c'est ça. Hein. » Ben voilà, ben c'est ça, faut tout laisser, faut tout abandonner, faut rentrer entièrement dans l'éternité, dans la vie éternelle, etc. Et le père Delorme qui disait « Mais oui, mais enfin, il faut s'occuper concrètement aussi de ceux qui sont dans le quartier, etc. » C'était un petit peu, c'était deux pratiques, une pratique mystique métapsychique, et une pratique sociale catho. C'était très intéressant comme confrontation. Vous voyez? Mais je crois que ce qui est important de comprendre, c'est que, vous voyez, formellement, notre intelligence n'est plus contemplative. Et vous voyez, c'est à force de percevoir le point de vue des principes, le point de vue fondamental, le point de vue subsistant, le point de vue de la source en nous, le point de vue de l'origine, qui permet de saisir en nous toutes les potentialités vers le bien. Toutes les potentialités vers un bien qui est. Pas qu'on voit, qu'on ressent. Pas qu'on imagine formellement, qu'on sait peut-être exister éventuellement dans l'idéal. Mais qui est. Alors à ce moment-là, il y a notre intelligence, à force, vous voyez, de s'affiner dans cette direction-là, elle devient contemplative. Notre appréhension de l'autre devient contemplative. Notre appréhension de Dieu doit être contemplative. Elle doit être concrètement associée au jugement d'existence. J'existe et Dieu existe. Remarquez bien qu'un musulman, vous voyez, il dira « Allahu Akbar, Dieu est grand ». Il ne commence pas par dire « Dieu existe ». Il ne dit pas « Est-ce que Dieu existe ?» On ne se pose pas la question. C'est « Allahu Akbar ». Dieu est grand. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Dieu est un. 99 attributs comme ça, sur le chapelet que vous voyez. 99, très beau, extraordinaire, mais jamais Dieu est. Comme c'est curieux, n'est-ce pas ça? Pourquoi? Parce que vous voyez, dans une mystique métapsychique, j'échappe à la dimension contemplative. J'échappe donc là. Or, il se trouve que la dimension contemplative est le seul voie d'accès pour toucher Dieu en personne. Avec notre fond, source et principe intérieur. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus la rencontre personnelle avec Dieu. C'est pour ça, 5 fois par jour, hop, je me mets à genoux, et je me prosterne, et je fais des prosternations avec le corps, en direction du soleil. J'ai besoin d'ailleurs de sentir qu'il y a une masse de gens qui font la même chose à côté de moi. Et je récite des versets du Coran que je ne comprends pas. Et en faisant ça, je dis Allahu Akbar. C'est pour ça que j'aime tellement ce mot, parce que Allahu Akbar, c'est quelque chose que je comprends. Dieu est grand. Dieu me dépasse. Et alors je me gesticule jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que cette appréhension quand je me relève que Dieu est grand et que moi je ne suis rien du tout. C'est pas mal, si vous voulez. Mais c'est une prosternation de l'homme devant la grandeur de Dieu. Mais ce n'est pas la rencontre de Dieu. Et il se trouve que du point de vue de la grandeur, Dieu n'est pas plus grand que le cosmos. Du point de vue du mesurable, Dieu n'est pas plus grand que le cosmos. C'est pour ça qu'une mystique musulmane va tomber dans une mystique ésotérique panthéiste. C'est-à-dire une mystique où on va considérer la grandeur mesurable de Dieu par l'appréhension de l'âme. C'est-à-dire l'omniprésence cosmique de Dieu. Mais Dieu est infiniment plus grand que la mesure cosmique de l'univers. L'univers, c'est un bout de cendre à côté de l'immensité de l'existence de Dieu. Et de sorte que du point de vue mystique, vous comprenez bien que du coup, cherchant la nature divine pour elle-même, n'aboutissant pas au point de vue concret de l'existence de Dieu, je ne rencontre pas la source même de Dieu, et il se trouve que la source de Dieu, c'est le Père. Je ne rencontre pas donc la personne, ni son amour, qui sont le Verbe et l'Esprit Saint. Et pour ça, il faut que je revienne à mes frères, il faut que je revienne au point de vue concret du jugement d'existence, et de réaliser que l'autre existe à côté de moi aussi. Vous voyez ? Et que je dois l'aimer, et que je dois réaliser avec lui, avec celui qui est proche de moi, je dois réaliser comme une communion de trois personnes. En même temps, je dois être uni à Dieu qui existe vraiment, et à lui qui existe vraiment. Et c'est ainsi que notre intelligence petit à petit s'affine et regarde le point de vue de la réalité, tout en regardant le point de vue du principe, tout en regardant le point de vue de la vérité. Mais les gens qui restent uniquement ce point de vue de la vérité, Allahu Akbar, et puis tout un coup de pied au cul, sinon si tu ne regardes pas Allahu Akbar, ça devient une espèce de dogmatique, si vous voulez, théocratique, vous voyez, qui veut balayer tout ce qui n'est pas dans cette définition de l'absolu dépassement divin, de la grandeur de Dieu. Alors à ce moment-là, ça devient terrible, vous comprenez? Parce qu'il n'y a plus de place pour le corps mystique, il n'y a plus de place pour l'amour, il n'y a plus de place pour la charité, il n'y a plus de place pour la communion des personnes, il n'y a plus de place pour la liberté, il n'y a plus de place pour la vie contemplative. Il n'y a plus de place pour l'intelligence qui essaie de regarder comment ce que disent les textes, dans le texte. Il n'y a plus de place pour rien. Alors, il ne faut pas s'arrêter seulement au Tiesti. Sinon, je deviens un monstre. Je deviens hegélien. Je deviens un boa énorme qui bouffe tout. Et je ne respecte plus l'autre. C'est la philosophie du même. tout ce qui est pareil à moi, je suis d'accord, TST, ça marche. Bon, dans le pause, il faut faire attention aussi. Il ne faut pas uniquement être dans le pause. Oh là là, toutes ces théories, ces mystiques, ces métaphysiques, c'est épouvantable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut regarder les choses concrètes, il faut regarder ce qui est scientifiquement démontrable. Il faut regarder ce qui est efficace dans la thérapie des névroses obsessionnelles. Il faut regarder les résultats. Il faut regarder l'épanouissement de notre génie intérieur dans l'art. Et que c'est nous qui sommes, j'allais dire, concrètement les créateurs. Il ne faut pas fuir dans l'espèce de religiosité pour ne pas faire son travail. Il faut être créateur dans une urbanité tournée sur l'humanité, sur elle-même, pour qu'elle se dépasse dans le surhomme. Alors, je tombe à ce moment-là dans le pause. Et je ne veux pas regarder la vérité. La seule vérité qui compte, vous voyez, c'est cette espèce d'instinct de l'homme qui se dépasse dans un surhomme et qui, en fait, est lui-même le Dieu qu'il a imaginé pour éviter de faire son travail. Alors, à ce moment-là, vous voyez, les philosophies du post, c'est ce qu'on appelle les sept idéologies athées. Vous les connaissez par cœur maintenant? Art, 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 Nietzsche. Nietzsche. La créativité. C'est ça, la vraie philosophie, la créativité. La nouvelle pédagogie, c'est ça, tu vois. C'est la créativité, on va faire du virtuel sur Internet. On va créer un nouveau monde, un monde virtuel, donc réel. Bon, premièrement. Deuxièmement, l'affectivité. Il n'y a que l'amour qui compte, il n'y a que l'amour. Oh, j'ai envie de l'aimer, oh, je me précipite sur lui comme un hippopotame, je l'étouffe comme sous un édredon, le pauvre garçon. C'est normal, j'ai envie de l'aimer, j'ai des palpitations terribles, ah, il faut que je l'aime, je vais pas, hop là. Faites ça sur lui, vous allez voir, il va se tirer. Pourquoi? Parce qu'il est réaliste. L'amour, c'est pas une pulsion libidinale et hop, je me précipite. C'est le contraire, c'est pas une force centrifuge. C'est une force centripète. Vous comprenez bien, l'amour, c'est quelque chose qui est une impétration, une implosion dans le bien éternel. C'est cette bonté qui attire tout. Dieu est bon, Dieu est amour parce qu'il nous attire. Et puis c'est tout. Voilà, alors, mais si c'est qu'une libido qui ne demande qu'à se répandre et puis aller jusqu'au bout de son caprice, de son désir, de son instinct, de son affectivité, de son vécu affectif bête, complètement... Bon, eh ben, ça donne Freud. Jung, Reich. Enfin, Jung, il est un peu plus compliqué, mais enfin bon, très bien. Les philosophies analytiques. Lui, il met des transcendentaux et des archétypes en plus. Bon, c'est pas grave, c'est pareil, c'est la même chose. Vous comprenez? Ah! Déjà, les mecs! Alors bon, il y a les sept idéologies athées. Mais non, mais tout ça, il faut être concret, je veux dire. Ce qui équilibre l'homme, l'humanité, la société, c'est quoi? C'est le travail. Alors t'es prié de faire la cuisine, de t'occuper, au fond, hein? De comment est-ce que tu appelles ça? De ranger les assiettes, de faire l'intendance, etc. Hein? Tu fais la comptabilité, 8 heures par jour, et on paye le SMIC, hein? Puis c'est marrant. Bon, alors, donc, il faut travailler. Et il faut travailler. Alors, si tu travailles, alors, tu n'as plus besoin d'antidépresseurs. Comment? C'est ça. Il faut que tu apportes une plus-value dans la société. Il faut que tu apportes un travail concret. Il faut que... Et on doit te respecter. Et le plus grand malheur qui puisse arriver à un être humain, c'est d'être au chômage. Il n'y a pas de plus grand malheur que ça. C'est la détresse la plus totale qui soit. La preuve, c'est qu'il ne reçoit pas de salaire. Comprenez? Donc c'est une question de transformation de la matière qui implique une plus-value qui rétribue l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme transforme la matière et en transformant la matière, il rencontre la matière pour lui donner une perfection une plus-value. C'est vrai, si je prends de la boue et je transforme en statue, c'est plus beau qu'un tas de boue. Vous voyez, j'ai rajouté quelque chose qui vient de moi, j'ai rajouté une perfection à notre univers, j'ai donné une plus-value à cet univers, je suis rétribué pour cela, et surtout, la plus grande rétribution, c'est que je suis en contact avec la matière, et la matière est en contact concret avec moi, et du coup, je réalise que je suis une matière suprême. Et je me retrouve moi-même, et l'être, c'est Lénine, c'est la matière. Et moi, je suis la matière à l'état pur. Je suis la matière complexe par excellence, et c'est pour ça que le travail, c'est la seule chose qui donne la dignité à l'homme. La seule. Et si des gens rétribuent et trouvent leur dignité en faisant travailler les autres, ils doivent être exécutés. Parce que ce sont des menteurs et des exploiteurs, ce qui n'est pas faux. Bon, ça c'est un autre problème. Marx. Autre idéologie athée. Marx, Lénine, je vous en passe des meilleurs. Bon. Troisième, quatrième idéologie athée. Ah, mais dites donc, quand même, oui, il y a le point de vue, donc quand même, il ne faut pas exagérer. Il y a aussi une chose, c'est que il faut bien sûr chercher la vérité, mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Par exemple, il y a une vérité, prenons un exemple tout simple, il y a une comète qui passe. Hein? Une comète, on l'a découverte en juillet 95, à M. Hallet, à M. Bopp, hein? J'ai 95. Et puis, la pauvre comète, elle est passée, on la voit. Puis, à partir du mercredi décembre, on voit la comète à l'est. Et puis, donc, elle trouve son apogée vendredi, samedi, dimanche de Pâques. Très bien. Et en ce moment, elle s'en va. C'est formidable. Eh bien, il n'y a que la science qui pourra nous dire quelque chose sur cette comète. Il n'y a que la science qui pourra nous dire quelque chose sur cette comète. Bon. Alors, moi, pauvre type, dans ma grotte, j'ai pas les comptes rendus de sur la comète. Mais enfin, j'ai quand même eu des comptes des comme ça par hasard. On m'en a donné qui venaient des Canaries, de Grasse, de Meudon, de cinq laboratoires, enfin d'astrophysique. Okay. Chacun donne des chiffres différents. Lundi, 90 000 km à l'heure. Vous voyez ce que ça donne? L'autre, il dit 150 000 km à l'heure. Je ne sais plus si c'est Canary ou autre. Hein. L'autre, il dit 300 000 km à l'heure. Bon, alors, évidemment, pour la périodicité, hein, il revient sur la Terre tous les... Hein, ben non, parce que si c'est 90 000, c'est tous les 4200 ans. Si c'est 150 000, c'est sous les 3200 ans. Si c'est 300 000, on arrive à peu près à 2000 ans. Mais il y en a d'autres qui disent 1700 ans. 2000, pas beaucoup. Enfin, autant d'observatoires, autant de chiffres différents. De 1 à 4. Et vous allez... Non. Bon, alors écoutez, quelqu'un qui est bête, qui est tombé dans l'idéologie du positivisme, il n'y a qu'une seule vérité qui compte, c'est celle de la science va nous dire, je suis désolé, mais c'est quand même absolument ridicule. Un simple amateur avec une lumette astronomique, il sait que la comète elle est à 190 000 lions de kilomètres au moment où il l'observe, il la regarde une heure après, il peut calculer à 1000 km près sa vitesse. Alors, il ne faut pas croire ce que vous disent les résultats officiels de la science, c'est pas un critère de vérité. Croyez-le bien, il est manipulable à merci, chacun à sa guise. Jamais vous ne trouverez une vérité scientifique par la science. La science ne nous donne aucune vérité. Elle nous donne des mesures, c'est tout, et uniquement des mesures. Et là, pour la comète, même les mesures sont toutes fausses. Bon, pour ceux qui s'interrogent, cette comète a 2000 ans de périodicité. Bon. Ça, c'est un autre problème. Et c'est pas par la science que je le sais. Bon, alors. Donc, attention. Ce n'est pas que la science qui nous enseigne la vérité. Ah, oh, le suaire de Turin. Est-ce que c'est le suaire de Turin? Ah bon. Et la Bible. Attention, la Bible. Que nous dit la science sur la Bible? Quelles sont les origines? Vous avez vu ces émissions abominables de ce ramassis d'apostats pendant 6 jours sur Arte. Bon, Ça a été abominable. Leur position, c'était le positivisme. Alors, à ce moment-là, évidemment, en raison des méthodes scientifiques, ils ont privilégié, vous entendez ce que je dis, ils ont privilégié des textes de l'apocryphe de Saint-Pierre et de l'apocryphe de Thomas, qui ont été écrits par des gens qui n'ont jamais connu le Christ, qui ont écrit ces textes alors qu'ils étaient contre les chrétiens, qui l'ont écrit en 212 après Jésus-Christ. Ils ont privilégié au niveau de témoignage historique ces textes-là par rapport aux textes de l'Évangile, dont on sait que c'est des témoins oculaires, que ces textes ont été écrits 15 à 30 ans après la mort du Christ, sinon avant, au plus tard. Et donc au niveau historique, voilà ce que c'est que cette méthode. La méthode scientifique n'aboutit à rien. Il y a toujours un a priori, une hypothèse de départ. Et cette hypothèse, c'est que je veux dire d'abord ça. Autre idéologie. Et ça, si on est positiviste, en disant attention à ce que le suaire, on aboutit à quoi avec la soi-disant science. Parce que quand je fais une hypothèse, je veux aboutir au XIVe siècle, je fais aboutir les trois laboratoires au XIVe siècle. Mais c'est non seulement c'est faux, mais en plus c'est scientifiquement faux. Parce que scientifiquement c'est faux. L'évolutionnisme. Ah bon, d'accord, laissons tomber tout ça. La libido, c'est un peu gros. Le matérialisme, vous laissez un peu gros. Bon, Nietzsche, la volonté de puissance, etc., écrasez-vous, c'est moi l'artiste. Hein, c'est un peu gros. Bon, les soucoupes volantes, positivisme, c'est un peu gros aussi. Hein. Bon, alors, il reste quoi? Ah, la vie. La vie, voilà, ça y est, la vie, c'est sacré. La vie, c'est sacré, la vie, c'est sacré, la vie, c'est sacré. La vie n'est pas sacrée. La vie n'est pas sacrée, frères et sœurs, la vie n'est pas sacrée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Brigitte Bardot? L'icône de la bêtise. L'évolutionnisme. La vie n'est pas sacrée. L'esprit, l'être est sacré. Ce qui est sacré, c'est ce qui est en lien direct avec Dieu. Et la vie n'est pas en lien direct avec Dieu. La vie, elle va, elle vient, elle évolue plus ou moins, et elle se corrompt. Mais l'être demeure, l'esprit demeure, et Dieu demeure. Toujours, rappelez-vous, toujours, 3. Vous voyez, l'évolutionnisme, c'est de dire, ah ben, à partir du moment où il y a la vie, vous voyez, on a dit, ah ben oui, il y a une Spoutnik là qui a vu sur Mars qu'il y a un type de la glace, etc., des éléments de vie. Ah, c'est formidable, donc ça y est, donc voilà, ça y est, il y a la vie. Donc ça y est, tout y est puisqu'il y a la vie. S'il y a la vie, eh ben, il y aura forcément un jour des plantes, un jour des hommes là-dedans. Enfin, c'est aberrant ce qu'on a entendu sur les postes là, il y a quelques jours. C'est une aberration mentale. C'est devenir débile, c'est prendre les gens pour des imbéciles. Oui, rien du tout. Alors, l'évolutionnisme, c'est quoi? C'est de dire que la vie, à partir du moment-là, elle évolue, elle a en elle-même son principe de progression. Ça va de mieux en mieux. La vie va de mieux en mieux, donc tu passes du lapin au singe, du singe à l'homme, et de l'homme au New Age, à la divinisation totale, de la réalisation parfaite dans le métapsychique éternel, dans le plasma définitif, du panthéisme bodhéique, du samadhi sans racine. Ça évolue, mais c'est faux. Depuis, on s'aperçoit, toute chose qui a la vie, et qui n'a pas l'esprit, qui n'a pas le point de vue métaphysique de l'être, ni la source en elle-même, dans son individuation, toujours, elle se corrompt. Elle évolue vers la dégradation. La vie en elle-même n'a aucun principe qui lui permet d'aller vers le bien. La vie n'a aucune signification. Ce n'est pas porté par son principe. Ah, alors, du coup, on descend du singe. Vous voyez? Mais non, descends pas du singe. Moi, j'étais en train de célébrer la messe de Pâques. J'en avais marre. J'avais regardé la comète peut-être un petit peu trop à la sortie de ma douche de Lourdes. Et j'ai eu 42 fièvres pendant 10 jours. Et le jour de Pâques, on ne m'a pas parlé. Mais je peux dire que pour le sermon, il m'a entendu quand même. À le sermon, j'ai hurlé. Il m'a dit, vous croyez que je ne pourrais pas faire de sermon ? Parce que je peux pas parler. Vous avez un sermon plus court ? Pas du tout. Il sera encore plus long. Oh, il disait, bon, il disait que 20. C'est un petit village. Alors, il dit, mais non. Est-ce que l'homme descend du singe ? Non ! L'homme est créé par Dieu directement. Il descend pas du singe. Il vient de Dieu. Il vient pas du singe. Imbécile. Bon, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bon, alors laissons tomber toutes ces sonneries. Hein? Parce que tout ça, c'est des sonneries, des souillardises qui sont inventées par des gens perclus. Donc, rentrons enfin dans la vérité. Alors, la vérité, vous l'avez tous deviné, c'est quoi ? C'est l'homme, la liberté. Enfin, nous allons nous réaliser dans la dignité d'une liberté réalisée. Et nous rentrons dans l'existentialisme. En fond, ce qu'il faut, c'est trouver notre liberté. Ça y est, on a trouvé. Là, on sort de tous ces petits trucs sur l'évolutionnisme, le singe. Le singe n'est pas libre. Hein ? Le positivisme, je ne regarde pas la science. La liberté n'est pas mesurable. La liberté n'est pas de l'ordre de la matière. La liberté n'est pas de l'ordre de cette espèce d'affectivité débridée. Ah non, la liberté ne se crée pas. La liberté crée l'existence même de l'homme. Elle ne se crée pas par elle-même. Elle s'impose de l'intérieur. Et donc je suis libre. Je suis libre. Alors, laisse-moi, je suis libre. Vous comprenez ? La liberté. C'est extraordinaire cette philosophie de la liberté. C'est ça la vérité. C'est trouver cette liberté. Je suis libre. Laissez-moi faire ce que je veux. Ce que je veux, c'est ça. Réaliser, pouvoir réaliser ce que je veux, c'est ça qui fait la grandeur de l'homme. C'est ça qui permet de transformer, de faire cette transformation profonde de l'humanité. Alors, l'existence d'une liberté agissante. Et les autres ? C'est des mouches. Les autres, c'est des mouches. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce que c'est que l'enfer, c'est les autres. C'est très moderne, ça. Hein? La liberté, sous le rapport de l'existentialisme, c'est peut-être la liberté, mais avec une finalité inversée. C'est une finalité qui ne fait pas rentrer dans le point de vue du bien de l'autre, mais qui me fait rentrer dans la destruction de l'autre, et jusque dans ma propre destruction pour qu'il n'y ait plus que la liberté sans moi. La liberté est toujours homicide. C'est pour ça que si vous vous mariez en disant, disons Charles, nous sommes mariés depuis 20 ans, je suis libre maintenant. Maintenant, lâche-moi les pompes. Je suis libre. Non, tu es libre, tu n'es pas libre. Tu as choisi de mourir dans le mariage. Tu as choisi de te donner dans le mariage. Tu as choisi de rentrer dans le cœur de celui qui est proche de toi. Tu as choisi de vivre de la communion des personnes et d'oublier et l'un et l'autre et de rentrer dans l'unité sponsale pour réaliser le grand œuvre de la liberté divine dans la communion des personnes. Voilà, j'ai mis le grand œuvre, c'est pour faire plaisir quand même à nos amis de la pieuvre noire. Voilà, donc vous avez ici un autre, nous avons un autre aspect donc des idéologies athées qu'il faut bien regarder, et qui sont ceux qui regardent toujours le point de vue du poste, vous voyez, toujours le point de vue du conditionnement. C'est vrai, on est conditionné par la liberté, on est conditionné par la vie intérieure qui est la nôtre, par le vie psychique, on est conditionné par le mesurable, les vérifications, même élémentaires, si vous voulez, hein. Bon, on est conditionné par la matière, ça, il n'y a pas d'autre. On est conditionné par le travail, on est conditionné par le monde instinctif qui est en nous. On est conditionné par le point de vue, donc, de l'exigence de faire que ce monde soit meilleur, grâce à nous. Point de vue de la beauté. Ah, quelle est la dernière idéologie? Parce que depuis 10 ans que je vous le raconte, quand même, s'il n'y en a pas un qui me le dit, je me suicide, hein. Hein? Le syncrétisme. Hein? Le mondialisme. Vous avez bien, vous voyez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc il en manque une. Eh ben... Alors là, je suis vraiment effondré, je veux dire. Oh, pas avec mon pompe. Il regarde dans ses pompes, lui. Mais enfin, quoi? Non, 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 non. C'est toi qui devrais me le dire. Tu sais pas. Bon, si on veut, l'idée, Hegel. Hegel, si vous voulez, l'ontologisme, le néo-hegelianisme. Alors c'est quoi cette histoire de néo-hegelianisme? Bon, comme nous venons de le démontrer, toutes ces idéologies ont pour base de dire c'est ce qui se réalise dans le conditionnement qui compte. Et c'est ça la source de tout. L'homme. La source de tout l'homme, c'est pas Dieu, c'est pas la métaphysique, c'est pas le S, c'est pas Dieu. C'est ce conditionnement qui fait tout. L'homme n'est que artiste. Non, c'est pas vrai. L'homme n'est que libido. Non, c'est pas vrai. L'homme n'est que matière transformable. C'est pas vrai. L'homme n'est que vérité scientifique. C'est un espèce de martien qui est en retard. Martien dans les ovnis, vous voyez. C'est un martien qui est retardé. Il a à peu près 1000 ans de retard. Bon, très bien. Non, c'est pas vrai. C'est un singe évolué. Non, c'est pas vrai. C'est une liberté. C'est une liberté capable de s'exprimer jusque dans l'anéantissement des déterminations inessentielles. Pourquoi c'est pas ça, Sartre? Bon. Alors, donc, soyons intelligents. Soyons donc intelligents et retrouvons l'idée qui, elle-même, soumise à toute critique, à toute épuration, permettra à l'esprit de l'homme de jaillir là pour lui-même, de manière qu'il n'y ait plus que cette épuration de l'idée dans l'advenue de l'esprit. Par le primat de la négation. Et si je veux être intelligent et contemplatif, il suffit simplement de passer au crible tout le temps, toutes ces idéologies lamentablement réductionnistes. Et donc, à chaque fois que je vais dans un salon et que je vais entendre quelqu'un, je vais entendre le père Patrick par exemple, non, mais ça, c'est pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vous êtes machin, c'est parce que vous avez fait partie de l'Inquisition et des croisades, etc. Et je vais critiquer, je vais passer au crible de la critique toute vérité de manière à ne plus avoir que le point de vue donc de l'idée épurée dans le point de vue de la manifestation de l'esprit. Le primat de la négation est la seule chose qui fait que je suis intelligent. C'est une manière très 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 rapide hein, d'exprimer la pensée hegelienne. La pensée hegelienne est capable de tout dévorer, de tout critiquer, de donner l'antithèse à toute chose pour trouver la synthèse suprême. Mais c'est la négation, c'est le primat du néant, qui est source de l'advenue de l'esprit dans l'homme. ça n'est pas vrai. C'est la contemplation qui est la source de l'advenue de la vie spirituelle dans l'homme. Et la contemplation ne consiste pas à passer, vous voyez, à la mitrailleuse lourde, toutes les opinions des gens ou toutes les expériences, c'est-à-dire des personnes qui nous sont confrontées. Elle consiste au contraire à accueillir ce qu'il y a de plus substantiel en eux, de plus actuel en eux, de plus personnel en eux, de plus source en eux, de plus aussi présence de Dieu en eux, pour contempler et recevoir uniquement dans ce oui contemplatif ce qu'ils ont de plus substantiel, de plus actuel, de plus réel, de plus personnel. Cette idéologie, elle considère que c'est l'homme qui arrive au point de vue de spirituel le plus pur par lui-même et par le primat de la négation. Et toutes les idéologies athées sont une expression de cette interrogation qui refuse finalement quelque part l'interrogation métaphysique, l'interrogation de la source, le retour à la source de ce qui fait l'unité de l'un et qui ne regarde que l'éclatement concret du conditionnement pour faire de un éclatement concret du conditionnement que nous avons vu les dernières fois un absolu et de le diviniser. De sorte que l'éclatement de l'un, pour ceux qui sont que dans des philosophies du pos, va se transformer en idéologie athée. C'est-à-dire que la source, c'est cet éclatement. Mais cet éclatement, nous l'avons vu dans l'un de premier instant, de notre première cellule, dans notre première advenue originelle, dans la première cellule, dans l'existence, dans la vie, dans le corps, dans l'intériorité, dans l'appel au bien, dans la lumière, dans la présence, j'allais dire, de tout notre univers, les sept aspects, voyez, cette expérience de l'un s'est aussitôt élargie pour servir de base pour faire que ce oui originel de l'un, notre innocence divine, puisse s'exprimer dans l'amour, rappelez-vous toujours, dans l'amour, dans la contemplation de la vérité et dans l'union personnelle et éternelle avec l'acte pur. J'ai pas eu le temps d'avancer beaucoup aujourd'hui, mais la philosophie de l'un, elle sert au moins à ça. À voir comment l'éclatement de l'un a une source dans l'un originel pour pouvoir rentrer dans l'acte pur d'une unité et d'une union personnelle. Si de sorte que vous pouvez faire plusieurs philosophies de l'un. Vous sentez bien. Vous pouvez très bien faire une philosophie de l'un en disant uniquement au niveau du pos. Et dit, mais il n'y a que l'art qui équilibre. Il n'y a que la musique qui équilibre. Moi, je ne serai équilibré que la musique, que par la musique. Je vais m'épanouir, me réaliser uniquement par la musique. Parce que c'est vrai que l'œuvre artistique unifie profondément quelqu'un qui réalise cette œuvre. C'est vrai que l'un se retrouve à l'état participation dans tous ces aspects de l'homme. Vous voyez ? Donc ça c'est vrai. Mais pourquoi ? Parce que l'un est originé dans cet éclatement. L'éclatement de l'un est originé dans l'un lui-même, de l'origine béatifiante de l'acte créateur de Dieu dans la première cellule, ce que nous avons déjà vu la dernière fois. Je ne veux pas y revenir dessus. Donc il faut revenir à qu'est-ce que c'est que cet un concret dans sa vérité initiale, à la fois éternelle et temporelle, qui dépasse le point de vue de l'éternel et du temporel, et de manière à comprendre que c'est l'acte pur de celui qui dépasse le point de vue de la pluralité des personnes dans l'un, c'est-à-dire Dieu, qui est la cause finale de l'un, l'un pris pour lui-même, soit dans le pos, n'a aucune signification. Elle nous enferme dans l'un. Elle nous enferme dans une nostalgie, dans une expérience perdue, dans une expérience du paradis originel, dans une expérience de la première cellule béatifiante de la créateur de Dieu. L'un
s'opère dans la réalisation du dépassement. Toujours le dépassement par le bien en soi, la vérité en soi, et la communion avec l'acte pur éternel, jusque sur le plan de la personne. Ce que le pape a dit aux jeunes, du reste, et je vais arrêter là-dessus parce que ça a sonné, à Chestokova, vous vous en rappelez, il dit, les jeunes qui ne savent pas mettre leur je suis dans les je suis de Dieu ne garderont pas leur intégrité humaine dans l'entrée du troisième millénaire. Il faut donc, chers jeunes, que vous appreniez à mettre votre je suis dans le je suis de Dieu. Tout le reste, l'Église, les papes et les jeunes déclarent la guerre à tout le reste. Tout le reste est une culture des morts. Bah, il n'a pas encore parlé des derviches et du soufisme. Ne vous inquiétez pas, le prochain pape en parlera.